Oui, bon, quand même, pour dire que dans des pays en guerre comme la Syrie, non, les fouilles n'ont plus lieu. Enfin, c'est des pays qui sont paralysés pour toutes les activités, hein, on va dire, normales, comme les fouilles archéologiques. Pour répondre à votre question, oui, ces fouilles, elles sont payées pour l'essentiel. Ce sont des fouilles programmées, donc ce sont des fouilles qui sont décidées assez longtemps à l'avance et qui sont conduites par des écoles étrangères, par des universités étrangères, le plus souvent, mais qui sont encadrées par les autorités du pays local.
C'est les pays qui financent, ils ont quoi à y gagner ?
Bah, de la connaissance, du savoir et du prestige. Et c'est là que ça se corse un petit peu, c'est que autant la connaissance et le savoir sont légitimes et sont justifiés, il est évident qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu ambigu, parce que très souvent ces écoles étrangères sont payées non pas par les ministères de la culture, mais on va dire financées de manière importante par les affaires étrangères. Donc il y a une activité, on va dire, qui est liée au prestige national, et il y a là, à mon avis, à mon humble avis, on va dire, d'archéologue neuchâtelois, il y a quand même un petit peu des relents de post-colonialisme qui sont un petit peu délicats et ambigus, parce que ça, on va dire, des fouilles françaises en Syrie ou des fouilles françaises, je sais pas, enfin dans des pays comme ça, servent, on va dire, d'un côté, les archéologues, eux, sont contents parce que ça leur permet d'établir de la connaissance et du savoir sur le passé, mais les gens qui le financent, les diplomates qui sont là derrière, eux, ils tiennent pour le rayonnement du pays. Et il y a là, on va dire, une instrumentalisation de l'archéologie qui peut s'avérer problématique et qui, à mon avis, est quand même en partie liée aux destructions qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui.
Alors, des destructions qui ont lieu presque tous les jours aujourd'hui sur ces sites comme Palmyre, par exemple, hein, des sites très important pour le patrimoine. Est-ce que, alors, on peut pas continuer les fouilles, mais est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place pour encore sauver ce qui reste ?
Alors, il y a des quantités de choses à faire et qui sont faites, d'ailleurs, qui sont conduites par beaucoup d'archéologues syriens, d'une part, pour le traçage du pillage, et du côté de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis, il y a un énorme travail sur les bases de données pour essayer de faire des inventaires de choses qui sont connues pour repérer ce qui arrive sur le marché des antiquités. Ce qui est détruit délibérément, là évidemment on ne peut pas faire grand-chose, du moins pas de manière pacifique. En revanche, ces destructions spectaculaires qui sont mises en scène notamment par Daesh, ce n'est que la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que là derrière, toutes les parties au conflit, et je dis bien toutes les parties au conflit, pillent des sites, pour se financer. Alors on a parlé de sommes monstrueuses, et là, disons, mes informations donnent plutôt à penser que les montants sont quand même relativement modestes, mais il y a une sorte d'impôt sur le pillage des antiquités, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme la cueillette des framboises, y a des gens qui s'enrichissent avec ça, ils s'enrichissent pas nécessairement beaucoup, mais c'est une activité économique, c'est une ressource, enfin c'est considéré comme une ressource. Évidemment c'est dramatique parce que on détruit là des choses qui ont beaucoup de valeur pour profiter, on va dire, d'un petit... c'est comme tuer la poule.
Aux œufs d'or.
Non, mais elle n'a même pas besoin d'avoir des œufs d'or. Mais disons, ouais. Vous tuez la poule, vous n'avez plus d'œufs, quoi.
Ouais. On voit sur le marché des objets archéologiques, un pays qui est en conflit, où il y a des zones de fouilles préalables au conflit. Est-ce qu'on voit tout d'un coup, paf, des arrivées comme ça d'objets beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus larges qu'auparavant? Enfin, un pays en guerre va... les objets vont sortir de ce pays?
À ma connaissance, ça a été le cas en Irak, au début de la Deuxième Guerre du Golfe. Mais les choses ont changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, la communauté internationale a des instruments aussi pour se protéger la contre, et il semblerait qu'aujourd'hui, alors il y a du marché noir de peu de valeur qui enfle, et où des objets se vendent, je pense, pour des sommes pas énormes sous le manteau. Le reste, le marché a plutôt eu tendance à s'effondrer, paradoxalement. Alors ce qu'on peut penser, c'est qu'on va dire des objets de grande valeur aujourd'hui sont cachés. On les cache, on attend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour ensuite les revendre. Et là, en tant que Suisse, on doit avoir un petit peu des sueurs froides, parce que on va dire que la Suisse, dans cette affaire-là, est une plaque tournante, ou disons est reconnue comme une plaque tournante dans le recel. C'est évidemment quelque chose qui ne nous rend pas très fiers. On va dire là, nous, on joue un rôle à l'échelle internationale qui n'est pas très flatteur et qui a longtemps été considéré comme pas trop grave, mais qui... Les sensibilités changent. Et là, il va falloir que ça change, parce que, on va dire, la Suisse est en train de se ridiculiser à l'échelle internationale.
Ce sujet passionnant, il va en être question ce soir à partir de 18h dans le café scientifique Objet Antique, c'est quoi ce commerce auquel vous allez participer. On va mettre toutes les informations sur la page internet de Format A3. C'est donc à l'Université de Neuchâtel dès 18h. L'entrée est libre. On vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler ce matin.
Merci à vous.